Nous sommes le mercredi 15 février 2023. Il sonne 11h et à tous les auditeurs, à toutes les auditrices du Club La Presse, sur les antennes de Radio Canal FM, sur Radio Courtoisie à Dapaon, sur Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nero, ou encore les radios numériques, Radio Gameli, devenue Radio Les Bénins, et tous les médias qui nous relaient ici au Togo, en Afrique et de par le monde, nous vous saluons. Et nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute avec à la manœuvre Vitogbe Kokou, Michel Tominga et Géraud Akucha. Ici au studio Abbas Isaka, Mouven Kozo.
Ah, bien sûr.
La FIA.
Koukarni.
La FIA.
Danani.
Tu vas très bien.
Oh, je vais
tu as porté Wache ou Koko.
C'est Wache même.
Wache pour la troisième mi-temps.
Oui.
Ok, nous attendons le confrère Bassa. C'est pas le plus gros, hein, mais c'est le moins mince des journalistes du Togo. Il doit peut-être aller chercher des tubercules d'igname dans son champ. C'est pourquoi il est en retard. Il va nous rejoindre tantôt et découvrir la pensée du jour quand Morgan Freeman nous apprend que la plus grosse erreur que nous puissions faire est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. Ça nous arrive à toi, à moi et à beaucoup de personnes quand nous commettons l'erreur de croire. La phrase dit la plus grosse erreur que nous puissions faire est de croire que les autres pensent de la même manière que nous.
Oui, effectivement, c'est le problème que nous avons. Des fois, même quand quelqu'un parle, il n'a pas encore fini de parler, tu dis en même temps que tu lis ce qu'il est en train de dire dans sa pensée.
Mm-hmm.
Alors que tu ne sais pas ce que lui va avancer comme parole.
Oui.
Et finalement, vous êtes bloqué, la personne te dit, bon, c'est pas ça que moi je pense. C'est toi ton opinion. Donc chacun n'a qu'à garder son opinion et penser, de rendre sa pensée selon lui, que de dire que je vois ce que tu es en train de penser. Ça nous conduit beaucoup dans des erreurs et qui ne nous amènent nulle part.
Merci. Donc, au Club La Presse de ce jour, nous avons choisi de partager avec vous des questions de proximité. Hein, ce qui se passe ici à Lomé, ou bien ce qui est censé se passer ici à Lomé, à partir du 15 février, pour ce qui concerne les opérations de désengorgement des voies publiques, nous allons en parler comme cette opération d'enquête post-censitaire qui a démarré depuis quelques jours. Voilà, et bien d'autres sujets de proximité. Voilà, Michel, le menu du Club La Presse. Juste une seconde pour un petit réglage. Une fois n'est pas coutume, nous ne commençons pas aujourd'hui le Club La Presse par santé et éducation, mais plutôt par cette enquête post-censitaire. Vous devez déjà en être informé depuis une dizaine de jours. Eh bien, nous revenons sur le sujet avec Monsieur Tété Kossi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Sass, bonjour aux auditeurs, merci de nous recevoir sur votre plateau pour débattre de ces questions de l'enquête post-censitaire.
Vous voyez comment le monde est petit, Tété c'est mon prénom et Tété c'est votre nom de famille.
Ah vraiment.
Eh bien vous êtes le directeur technique de l'enquête post-censitaire à l'INSET.
À l'Institut, voilà l'INSET.
Eh bien nous savons que la phase de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat s'était déroulé du 23 octobre au 16 novembre 2022. Et au terme de cette opération, aussi bien la direction de l'INSET que les autorités gouvernementales avaient parlé de succès. Monsieur Dité, vous vous rappelez à l'époque?
Exactement.
Donc, les opérations, la phase de dénombrement du 5e recensement avait été un succès.
Un succès.
Et pourtant, ou bien malgré cela, depuis le 5 février dernier, a démarré l'enquête post-censitaire. C'est vrai que cette opération se déroule déjà depuis une dizaine de jours, mais nous avons voulu en savoir davantage pour le bien de nos auditeurs. C'est pourquoi vous êtes à notre studio. Nous vous en remercions.
Merci.
Eh bien, cette enquête post-censitaire, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'amenez-vous depuis déjà bientôt 2 semaines?
D'accord. Une fois encore, merci à vous, Monsieur Sass. Pour revenir donc à votre question, je dirais que l'enquête post-censitaire donc est une opération statistique qui est conduite de manière indépendante ou réalisée de manière indépendante peu après le dénombrement principal. Donc c'est une étape qui fait partie intégrante donc du processus du RGPH. Donc c'est un outil pour permettre de donc d'évaluer certains aspects de ce lourd travail qu'on a abattu.
Donc, pour dire en français facile, que l'enquête post-censitaire, c'est la suite de la phase de dénombrement que nous avons tous connue.
Évidemment.
Alors, c'est pourquoi l'amenez-vous?
Oui, il faut juste comprendre que le recensement est une opération lourde en soi. Donc, ce qui fait que, au regard des moyens mobilisés, que ce soit les moyens logistiques, les moyens financiers, la masse critique du personnel impliqué, la complexité des outils utilisés. Donc, il se trouve parfois que certaines personnes se trouvent soit oubliées, soit comptées pour double. Donc, l'enquête post-censitaire donc vient est une étape ultime du processus qui va ouvrir la voie à la publication des résultats définitifs. Mm-hmm. Raison pour laquelle elle est programmée au même moment que le compense la réalisation du recensement de la population et de l'habitat.
Donc l'enquête post-censitaire, c'est la phase qui suit le dénombrement et c'est pour affiner cette phase de dénombrement. Et comment se fait la collecte au cours de cette phase, Monsieur Tété?
Oui, la collecte se fait presque de la même manière que ce que nous avons fait au dénombrement principal, où nous recrutons du personnel que nous outillons. Donc ce personnel se va de ménage en ménage, va auprès des ménages donc pour recueillir les informations auprès des chefs de ménage, soit auprès des représentants des ménages, soit auprès de toute personne adulte membre du ménage qui peut donner les informations fiables sur le ménage.
Donc vos agents, ils sont encore sur le terrain, ils visitent les ménages. N'est-ce pas?
La quête suit actuellement son cours. Elle a commencé depuis le 5 février et se poursuit.
Et comment peut-on reconnaître vos agents sur le terrain?
Nos agents sont facilement identifiables et à partir de leur gilet à l'effigie de l'enquête et à partir de leur badge également.
Mm-hmm. Donc facilement identifiables?
Facilement identifiables.
À ne pas confondre avec d'autres personnes?
Du tout.
Eh bien, je le disais tantôt que cette enquête post-censitaire a démarré depuis le 5 février, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Et l'opération court jusqu'à quand?
Jusqu'au 22. Donc, passé la date du 22, plus personne ne pourra se prêter à cet exercice d'interview.
Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 février. Nous avons encore semaine
tout à fait.
Pour boucler cette étape de l'enquête post-censitaire. Eh bien, est-ce que l'enquête couvre tous les ménages du territoire national?
OK. Comme son nom l'indique, en fait, une enquête est toujours une opération réalisée sur une partie de la population, quitte après à partir des artifices statistiques à l'extrapoler à l'ensemble de la population. Donc, comme tel que dit, cette enquête post-censitaire également concerne quelques localités choisies de façon aléatoire pour permettre de recueillir les informations qui pourra être extrapolées après. Donc, au total, ce que nous appelons dans notre jargon les ZD, nous avons choisi 160 ZD qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire national.
Et je présume que vous faites en sorte que ces 160 localités réparties sur le territoire soient bien connues des concernés.
Oui, évidemment. Je voudrais nuancer légèrement. Les 160 ne font pas l'équivalent de les 160 ZD ne font pas l'équivalent de 160 localités. Mm-hmm. Ça veut dire que plusieurs ZD peuvent se trouver dans la même localité. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que il y a une différence entre les 160 ZD et les 160 localités en fait.
Et quelles sont les heures de visite de vos agents auprès des ménages?
Bon, en matière de collecte de données, il n'y a pas en tant que tel d'heure. C'est selon la disponibilité du répondant du ménage et que nous conformons. Ce qui veut dire que, vu la mobilité de la population, nos agents sont appelés à travailler des fois très tôt, des fois très tard pour pouvoir retrouver les ménages et recueillir les informations auprès d'eux. Mais toute la journée, ils sont sur le terrain en train de, pour les ménages disponibles, ils les enquêtent. Et mais pour les ménages qui ont des occupations, qui reviennent soit tard, et également ils restent tard pour pouvoir enquêter.
Les agents sont sûrement munis d'un questionnaire.
Oui, l'enquête EPC se réalise sur la base d'un questionnaire, mais un questionnaire dans sa version beaucoup plus simplifiée qu'au dénombrement. C'est juste quelques questions de confirmation qui permettent d'affiner davantage les résultats qu'on a obtenus au RGPR5.
Eh bien, l'enquête post-censitaire a démarré depuis le 5 février. Elle court jusqu'au 22 février, encore une semaine. Je rappelle que avant l'opération, il y avait eu un communiqué du gouvernement conjointement signé par le ministre d'État, Payade Aboukpessi, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Ablamba Johnson. Mais nous sommes en plein dans l'émotion, dans l'opération. Et une semaine avant la fin de cette phase de la société, est-ce que vous-même ou bien l'INSEED, est-ce que vous avez un message à l'endroit de celles et ceux qui nous écoutent actuellement?
D'accord. Merci une fois encore à vous, M. Gaou. Peut-être avant de passer le message, je voudrais rappeler trois petites choses à nos auditeurs. Donc la première est que, effectivement, l'enquête se déroule, est fixée sur la période du 5 au 22 février et se poursuit. Donc, passé cette période, donc, toute personne qui voudra donc se prêter à cet exercice d'interview ne pourra plus le faire. Donc, nous les convions à pouvoir le faire dans cette période-là. Donc, l'enquête se fait dans une version de questionnaire beaucoup plus simplifiée, comme je le disais tantôt. Donc, avec un temps qu'on exige des ménages beaucoup plus courts. Le troisième élément que je voudrais partager, M. Sass, c'est que l'enquête concerne tout le monde, aussi bien les enfants, les adultes que les vieillards, et aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien ceux-là qui estiment n'avoir été recensés, dénombrés, comme ceux qui ont été dénombrés. Donc, l'enquête concerne tout le monde, parce que faudrait pas que les gens pensent que, pour avoir été déjà dénombrés, et on ne doit plus se prêter à cet exercice avec l'EPC. Non, qu'on ait été dénombré ou pas, lorsque votre localité a été sélectionnée, donc vous êtes concerné par les questions de l'enquête. Maintenant, par rapport au message, M. Sass, revenons donc à vos messages et au message. Message à l'endroit des membres du CLR. Donc, nous réitérons notre gratitude en leur demandant de poursuivre la mobilisation des autorités locales pour leur permettre d'adhérer au processus, de prendre des dispositions pour le bon déroulement des activités dans leur zone concernée et assurer la sécurité des agents. Donc, à l'endroit des médias, nous sommes reconnaissants des efforts d'accompagnement que vous faites. Et merci de toujours rester avec l'INSEED, donc de pouvoir diffuser nos spots dans le cadre de cette activité et pour pouvoir sensibiliser davantage la population. À l'endroit des populations, nous exhortons la population, nous leur demandons de réserver un bon accueil à nos agents qui sont identifiables, comme je le disais, très facilement par leur gilet, par leur badge et en leur donnant, leur fournissant les informations vraies.
Merci à vous, Monsieur Kossi Tété, vous qui êtes le directeur technique de l'enquête post-censitaire que mène l'INSEE depuis le 5 février, l'opération qui court jusqu'au 22 février courant. Mais vous restez à nos côtés quand nous allons ouvrir les enquêtes, quand nous allons ouvrir les micros à partir de 12 heures. Il se peut qu'un auditeur veuille en savoir davantage, si ce n'est déjà quelqu'un ici que la bouche démange. Abba Chisaka.
Non, c'est merci pour aussi appuyer ce que le directeur a dit. Je pense que cette enquête est très importante pour qu'on puisse voir la qualité du dénombrement des populations qu'on avait fait en octobre dernier. Parce que s'il n'y a pas ça, je ne pense pas qu'on pouvait retrouver le chiffre exact. Parce qu'il faut conforter les chiffres de cette enquête post-sanitaire et celle que nous avons eue. Puisque nous avons aussi déjà, on a entendu des gens crier que nous, on n'a pas été recensés, on n'était pas concernés. Donc, c'est un échantillon des localités qui a été choisi pour pouvoir être sensibilisé et recensé. Mm-hmm. Et là, vous allez voir qu'il y a des équipes qui ont sillonné d'abord le pays et les zones concernées, les localités concernées, pour sensibiliser d'abord les chefs traditionnels, les préfets et les maires des localités concernées pour qu'il y ait une adhésion et faciliter le travail aux agents qui seront déployés sur le terrain. Donc je pense que ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on fasse cette enquête pour sensitaire, pour qu'on sache exactement combien nous sommes.
Merci pour ce complément qui va dans le sens de la sensibilisation. C'est une opération civique et citoyenne. Combien nous sommes au Togo, quelles sont nos préoccupations, quels sont nos besoins, cela pourra aider, cela pourra servir d'outil aux gouvernants de planifier nos besoins de développement. Et Dieu seul sait si nous avons beaucoup de problèmes, n'est-ce pas Bourema Djabore?
On a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas un pays qui n'a pas beaucoup de problèmes. Entre-temps, si tu permets, je voudrais dire bonjour aux auditeurs de Canal FM et pour dire à Sas que, effectivement, j'étais allé chercher les ignames, comme il venait de le dire. À la sortie, on va se les partager.
Vraiment, tu parles dans une émission de grande écoute.
Non, il n'y a pas de problème. Quand je dis ce que je fais, et tu le sais, Sas. Et je fais ce que je dis. Tu non, le
je
sais.
Prends un témoin, les techniciens.
Là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent en témoigner.
Merci beaucoup. Il nous a également rejoint. Lui, c'est Abel Ozi. Bonjour.
Bonjour, Sas.
Abel Ozi, c'est le nouveau directeur de publication de santé et éducation. Bonne heureuse année. C'est la première fois que toi et moi, on se voit dans ce studio.
Non, je ne crois pas.
Si?
Je ne crois pas.
Si? Eh bien, Santé Éducation paru aujourd'hui avec des titres aussi intéressants les uns que les autres. Commençons par le titre phare à la manchette. Ces aliments que vous qualifiez de pires aliments à éviter pour le foie. Pourquoi ces aliments sont à éviter? Parce que ces aliments altèrent, sinon dégradent notre foie, n'est-ce pas?
Oui, ça, le foie, c'est un organe très important dans notre organisme. Le foie joue un grand rôle dans notre organisme. Le foie, c'est l'organe vital là qui épure, qui évacue, qui élimine les toxines. Même quand le foie est en bonne santé, il y a certaines habitudes alimentaires qu'il faut éviter. Mmh. Et dans cette parution, nous avons fait un focus sur certains aliments que nous consommons au quotidien et qui peuvent altérer notre foie. On ne dit pas aux populations de ne pas en consommer, mais d'éviter l'excès, parce que ça devient une habitude quotidienne aux populations. Et ces aliments, vous pouvez les voir dans cette parution de Santé Éducation de ce jour.
Alors, ces aliments, il s'agit nullement de faire de la contre-campagne à qui que ce soit, mais les lasagnes, c'est-à-dire les plats qui contiennent du fromage, ou des sauces à base de produits laitiers, ou encore les frites, le beurre, la charcuterie, les boissons énergisantes, les pâtisseries industrielles, la viande grasse. Ces aliments sont à déconseiller parce que ces aliments peuvent altérer notre foie. Et pour comprendre encore pourquoi, imaginons que vous êtes ministre, président de la République, et que quelqu'un ne vient pas enlever vos ordures de la maison pendant une semaine, pendant un mois. Abel, tu imagines un peu?
Oui, on imagine ce que ça peut causer.
Or, c'est le foie, justement, qui joue ce rôle de grand nettoyeur, de grand déboueur, de grand détoxiqueur de l'organisme. Et ces aliments, quand nous les consommons, nous mettons le foie en panne. Le foie ne pourra plus nettoyer notre organisme. Et attention, danger, comme quelqu'un a chanté.
Oui, c'est vraiment important de connaître ces aliments et surtout, de limiter significativement ces aliments ou de les éviter carrément.
Merci. Ces aliments que Santé Éducation nous déconseille, lequel Santé Éducation nous recommande plutôt des aliments pour nettoyer le même foie. Il s'agit ainsi du persil et de la menthe qui sont bien indiqués pour nettoyer le foie.
Oui, exactement. Vous savez, il faut toujours consommer du végétal. Notre organisme est en réalité consomme du végétal. Et c'est ça, en fait, qui permet au corps de se développer, qui nous permet d'être en bonne santé. Quand nous avons une alimentation riche en fruits, en légumes et en végétaux, c'est-à-dire au moins plus de 80% de notre assiette est composée de ces aliments, vous allez voir que nous serons en bonne santé et notre croissance, notre développement sera aussi meilleur.
Le persil et la menthe hein, pour purifier notre foie, la recette suit. De même que la cardamome hein, qui peut également protéger notre foie et en même temps traiter l'ulcère.
Oui, cette parution, nous avons fait un focus sur le foie. Vous savez, c'est cet organe très vital. Et la cardamome, beaucoup peut-être voient cette épice sur le marché, mais peut-être ne savent pas en fait ce que c'est. Donc, nous avons fait un petit projecteur sur cette épice. Et c'est disponible sur le marché. Et ça peut aider. Ça peut aider à purifier, à éliminer les toxines de notre foie. Donc, à mettre dans les sauces, à mettre dans les soupes, dans nos jus. Et nous verrons les résultats.
Prendre soin de notre foie, également prendre soin de notre bouche en faisant en sorte que nous n'ayons pas de caries dentaires.
Abel. Oui, c'est exact. Vous savez, l'hygiène alimentaire est liée également à l'hygiène bucco-dentaire. Et la carie dentaire, vous savez, c'est l'une des pathologies les plus récurrentes au niveau de notre bouche, au niveau dentaire. Et la cause principale de la carie dentaire, c'est quoi? C'est l'excès de glucides, bien l'excès de sucre. Mm-hmm. Donc, quand on mange, on consomme trop de sucre, on est à risque d'une carie dentaire. Et cette carie dentaire, si elle n'est pas soignée, si elle n'est pas traitée, peut évoluer vers des complications très sérieuses. C'est-à-dire même des abcès au niveau de la bouche. Et attention, ça peut nous conduire à la mort.
J'ai lu l'article et je trouve que la carie peut évoluer jusqu'à un abcès dentaire. Et cette infection carieuse peut avoir des répercussions à distance sur les organes vitaux tels que le cœur, les reins, le système digestif, les yeux, les articulations. Ça peut aller jusqu'à provoquer des AVC.
Oui, c'est-à-dire une bouche et qui a des pathologies comme la carie dentaire. Attention, ça peut découler ou bien ça peut progresser vers d'autres organes vitaux, comme l'AVC tout à l'heure. Et attention, il faut qu'on prenne soin de notre bouche. Donc l'hygiène bucco-dentaire est très importante.
L'hygiène par soi-même, mais régulièrement également, des visites auprès des cabinets
c'est
dentaires.
C'est exact.
Merci. Nous sommes en plein dans la Saint-Valentin. Certains peuvent prendre la Saint-Valentin pour un concours et aller prendre des comprimés aphrodisiaques. Je ne sais pas à quel concours ils y vont, mais attention, comprimés aphrodisiaques, risque et danger, Abel.
Oui, cet article, nous l'avons fait suite au drame, à ce drame qui s'est produit à Dapan. Tout le monde, tous les confrères sont au courant de ce drame.
Et nous allons. Rappelle-nous ça.
Oui, je crois, c'est un homme avec une jeune fille et au final,
l'homme et la jeune fille en soi, c'est pas un danger, Abel. C'est quoi le problème là?
Oui, bon, en fait, il voulait faire des ébats sexuels et au final, on a vu que vraiment l'homme a perdu la vie suite à la prise des comprimés.
Ça dit Abel, il y a un homme qui a trouvé une jeune fille il a amené dans une auberge, mais avant, il a pris des comprimés aphrodisiaques.
Voilà.
Et puis
on constate.
Il n'était pas là quand le combat a même commencé.
Voilà. Donc, on constate que vraiment, il a perdu la vie comme ça. Donc, on alerte. On alerte encore sur ce phénomène. Vous savez, ça, ce n'est pas seulement dans les auberges et les hôtels. Même dans les couples légalement mariés, ce phénomène se passe.
La vie sexuelle au Bénin, c'est quand même pas un concours.
Voilà. Donc, on prend des comprimés, on prend ces produits pour montrer notre performance sexuelle. Attention, ça peut nous causer des AVC, ça peut nous causer des infarctus. Et pour tous ceux qui ont une libido faible, pour tous ceux qui ont une sexualité qui n'est pas épanouie, s'il vous plaît, consultez un médecin. La prescription peut-être du Viagra est importante. Allez voir un pharmacien, allez voir un médecin, et c'est possible qu'on vous prescrive peut-être un médicament pour vous fortifier, pour vous soulager. C'est vraiment important.
La question est tellement importante. Ce n'est pas seulement le Viagra et ses dérivés que les gens vont chercher dans les pharmacies ou à côté, mais dans nos décoctions. Et nous avons des préparations. Tu vas chez des gens, ils te sortent une bouteille, ils disent, ça c'est 4 heures du matin. D'autres disent encore que à sa montre, ils sortent toujours 3 heures. Suivez mon bras. Et il y a des préparations qu'on fait, aussi bien chez nous les évêques que chez les bassins, chez les cotocolis, chez les cabiers. Attention à notre cœur, n'est-ce pas, Abel?
Attention à notre cœur.
De temps plus à côté, il y a des activités, il y a des plaisirs sains, notamment faire du jardinage. Quand on est ministre, quand on est député, quand on est PDG, on a un grand domaine. Le week-end, on peut aller faire du jardinage, non seulement parce qu'on cultive, mais on entretient son corps, n'est-ce pas, Abel?
Oui, exactement. Vous savez, c'est une activité, des fois, peut-être qu'on ignore, le jardinage. C'est une activité physique également. Et ça a un impact sur la santé mentale que physique. Donc, vous savez, c'est juste pour nous montrer que il ne s'agit pas d'aller faire un footing sur un terrain, c'est pas toujours ça. Mais le jardinage aussi participe à la santé physique et surtout mentale de l'homme.
Merci. Par le jardinage, vous serez amené à avoir des mouvements répétitifs comme vous vous penchez, vous vous baissez, vous vous levez, vous fléchissez les genoux. Ces gestes qui stimulent les muscles et les articulations et qui favorisent la souplesse de votre corps, une bonne qualité également des os. Jardiner permet aussi de stimuler les capacités intellectuelles, cognitives. Si on n'a pas de jardin, il y a quand même madame à la cuisine qu'on peut aider, hein, piler le foufou, écraser le piment. Attiser le feu,
voilà.
Transporter les ustensiles à madame, d'autant plus que c'est vous qui allez manger après.
Ok, c'est ça.
On va terminer avec un loisir vraiment sain. Malheureusement, nos villes du Togo ne nous offrent pas beaucoup de parcs et de jardins, alors que aller se promener dans un parc, dans un jardin, fréquenter ces lieux-là, hein, c'est une alternative aux médicaments.
Oui, c'est toujours la santé mentale. Il faut qu'on ait un esprit clair. Vous savez, la nature, la verdure participe aussi à notre santé mentale. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas assez de parcs, on n'a pas assez de
pas assez ou bien pratiquement pas.
Pas de jardin naturel. Et voilà, c'est l'occasion quand même d'en créer pour faciliter. En fait, ces parcs, bien ces jardins naturels concourent également au bien-être, à notre bien-être également. Donc, quand on se promène dans une verdure naturelle, quand on se promène dans un parc naturel, vous avez cette sensation de bien-être en vous. Donc, c'est également pour sensibiliser, pour informer la population sur ce phénomène qui est vraiment important pour l'environnement d'abord. Et puis pour la santé de l'homme.
Il va falloir que nos 117 communes inscrivent cela à leur agenda, aménager des endroits, des jardins, des parcs où leurs citoyens, qui sont leurs électeurs, iront se reposer, se régénérer. L'occasion pour moi encore de dire grand merci à l'Université de Lomé. J'ai fréquenté l'Université du Bénin. À chaque fois que je le peux, je vais là-bas. Tout l'université ressemble à un jardin, à un parc. Je me rappelle mes années d'étudiant et également la verdure. élaborément. C'est des plaisirs sains hein, que je vais chercher.
Justement, j'allais vous poser la question. Vous y allez seul ou bien vous allez avec?
Je vais souvent avec un livre que je vais lire ou bien avec des amis avec qui je discute.
En tout cas, à vérifier.
À vérifier. Eh bien, tu vas vérifier et tu nous en diras. Abba Sisaka, le fait du jour. Nous en parlons depuis quelques temps. La semaine dernière, le ministre d'État, Payade Oabukwesi, a rassemblé les préfets, les maires, pour leur signifier que, à partir du 15 février 2023, les opérations de désengorgement des voies publiques vont commencer, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. C'était le 7 avril dernier et le 7 février dernier que cette réunion a eu lieu entre les ministres et les maires, ainsi que plusieurs les gens de CDQ et autres, là, pour leur signifier. Que le 15 est la date
c'est-à-dire
butoir.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, le 15, c'est la date butoir et que les opérations vont commencer. Même il y a des maires qui ont demandé un moratoire de 6 mois pour permettre, pour leur permettre aussi de continuer la sensibilisation, mais le ministre
n'a pas été accordé.
Donc, finalement, aujourd'hui, en principe, les choses devaient commencer puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22, il y aura des sanctions pour ceux-là qui n'auraient pas respecté la consigne, la décision du gouvernement. Donc, à partir du 23, on signale que les bidozers vont entrer en action pour dégager tous ceux-là qui n'auraient pas respecté les consignes. Donc, aujourd'hui, on voit que à certains endroits, nous avons constaté dans la ville qu'il y a certains qui ont dégagé, mais beaucoup restent à dégager. Je ne sais pas si à partir de ce jour, comme le ministre l'a dit, les sanctions vont commencer par tomber parce que on parle de 10 000 francs par jour, d'amende par jour, lorsque vous n'aurez pas respecté. Donc 10 000 francs d'amende par jour, si vous continuez à rester sur la place où on vous a demandé de quitter. Donc on est en train de voir si d'ici le 22, les gens vont quitter puisque les sensibilisations vont continuer au niveau des communes avant que les bidozers eux-mêmes ne rentrent en action.
Eh bien, c'est un rappel. À partir du 15 février 2023, les opérations de désengorgement des voies publiques vont commencer. De lourdes amendes, de 15 jusqu'au 22. À partir du 23 février, c'est les bulldozers qui vont entrer en action. Eh bien, vraiment, l'information, nous l'apportons depuis. Et en même temps, les préoccupations des concernés également nous arrivent. Ils ou elles se plaignent que c'est leur activité au quotidien. S'ils quittent là-bas, où est-ce qu'ils vont aller? Et j'entends des maires qui les rassurent que les mairies et les communes aménagent des places dans certains marchés ou en tout cas les communes se portent pour trouver des places en alternative à ceux qui opèrent sur les voies publiques et l'opération ne commence pour le moment, ne concerne pour le moment que ceux qui occupent les abords immédiats des grandes voies bitumées.
Non, je crois que c'est un peu pénible, hein. C'est pénible lorsque vous avez une maman, vous avez une sœur qui s'est habituée à ces genres d'activités à des lieux précis et aujourd'hui, du jour au lendemain, on vient lui dire, allez, il faut quitter, il faut débarquer. C'est un peu pénible. Mais il faut aussi comprendre que le gouvernement a aussi d'autres ambitions pour pouvoir faire développer les communes et autres sur toute l'étendue du territoire. Et il va falloir passer par là. Comme on le dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc c'est ça. Moi, ce qui m'a déjà plu, c'est le fait qu'on a pris le temps quand même de sensibiliser nos mamans et nos sœurs. Et vous venez de dire tout à l'heure quelque chose, les communes ou bien les responsables des communes se sont engagés à pouvoir trouver à ses sœurs et mères les places pour les rassurer sur le fait qu'ils auront quand même des places pour continuer leurs activités. Moi, je pense que c'est là qu'il faut prendre, c'est là l'essentiel. Il ne faudrait pas que ces mères et sœurs aient cette
assurance. Il y a aussi des hommes, hein. Il y a pas que les femmes
justement. La plupart du temps, ce sont nos mamans et nos sœurs qui s'adonnent plus à cette activité. C'est vrai. Je n'occulte pas que il y a des hommes qui en font. Mais je dis que il faut que ces responsables de communes et autres puissent également rassurer, en leur assurant qu'effectivement, qu'on leur donne les places nécessaires. Il ne faudrait pas que du jour au lendemain, on sorte et que ces mères, ces mamans ou bien ces commerçants ne trouvent pas là où il faut rester pour pouvoir exercer leur activité. Mais, je dis encore une fois, nous profitons pour lui. Ce n'est pas la peine de rentrer dans un tiraillement. Ce n'est pas la peine. Il faut quand même inviter ces commerçants quand même à obtempérer, à suivre la voie, à suivre ce que dit le gouvernement pour qu'on voit ce que le gouvernement va effectivement faire de ses abords et de ses places. Parce qu'on nous a dit qu'il faut quand même aménager. Et ça, c'est de vous à moi. Ici, nous nous sommes plaints du fait que ces genres d'installations et autres causent des nombres d'accidents.
Ils sont causes d'accidents.
Ça, il faut le dire. Donc, ça pourrait permettre quand même de réduire un temps soit peu ces accidents et rendre quand même la vie plus ou moins saine.
Merci. Maintenant, nous évoluons.
Oui, Abbas Zaka. Il y a un problème de suivi qui va se faire là parce que quand on dégage les gens et qu'il y a un espace libre comme ça, vous allez voir que très souvent, lorsque c'est vide, certains disent que la nature a horreur du vide. Ils viennent, surtout les gens, les débits de boissons, qui viennent installer les chaises sur les trottoirs dégagés. Et là, c'est pour éviter ces genres d'accidents qu'on dit dégager la route, les voies, surtout les voies bitumées.
Oui.
Mais vous allez voir que dans les soirées, des gens viennent installer.
On va voir comment les communes vont faire le suivi.
Maintenant, c'est les communes qui doivent suivre.
Merci. Nous leur souhaitons bon retour. Ils sont de retour et c'est la bonne nouvelle que nous apporte le confrère La Dépêche à la page 5. Eux, ce sont les éléphants. Les éléphants sont de retour dans l'est de la région des savanes. Un troupeau d'une soixantaine d'éléphants ont été localisés à Korbongou dans le nord-est de la région des savanes. Bonne nouvelle pour notre faune et l'écotourisme. Et puis, La Dépêche qui rappelle que le complexe W. Arli Pendjari, c'est-à-dire c'est une série de parcs qui s'étale sur le Burkina, le Bénin et le Niger et qui ont leur prolongement par les aires protégées du complexe Oti-Kéran-Mandouri. Au Togo, ce sont là des composantes importantes d'un corridor de migration frontalier des éléphants et d'autres grands mammifères. Donc, bonne nouvelle, un troupeau d'éléphants de retour au Togo. Sauf que, si on s'en réjouit, cela peut susciter également l'appétit des braconniers qui sont là, à côté des braconniers. Les terroristes ne sont peut-être pas loin, alors que les éléphants eux-mêmes peuvent constituer une menace pour nos champs, les greniers. Alors voilà la bonne nouvelle, les éléphants sont de retour, mais ce qu'il faut craindre, c'est qu'il faut les protéger contre les braconniers et autres individus animés de mauvaises intentions, et également faire en sorte que cette bonne nouvelle de retour des éléphants ne se fasse pas au détriment de nos champs, de nos greniers. Abbas.
Oui, effectivement, quand vous prenez le retour de ces éléphants, je pense que on peut dire que c'est une bonne chose, mais en même temps, si on ne les contrôle pas, on savait comment les choses se passaient dans la faune là, à Mango, où les éléphants rentraient dans la maison des gens pour dévaster ils dévastaient les champs. Même ils allaient même dans les maisons d'habitation pour effrayer les populations. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais il faut aussi voir le côté, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a le problème des braconniers, ceux-là qui vendent les ivoires, qui peuvent les chasser. Et une fois, on voit qu'une fois en passant, on montre des gens qui arrêtés, interpellés pour avoir, pour faire le trafic des ivoires.
Oui.
Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il faut voir. Et également, comment les contrôler, ces sont éléphants-là qui sont revenus. Parce qu'ils sont revenus, ils vont se multiplier encore. Lorsqu'ils vont se multiplier, est-ce qu'on pourra les contenir pour qu'ils n'aillent pas causer beaucoup de tort aux populations, qu'ils n'aillent pas beaucoup de tort aux travaux des champêtres, aux travaux champêtres. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'on est en train de promouvoir l'agriculture avec les forums qu'on est en train d'organiser.
Nous allons y arriver.
La promotion d'agriculture, et si les gens cultivent et ces éléphants arrivent à aller dévaster ces champs, qu'est-ce qu'on va devenir? Le projet là qui a été lancé par le chef de l'État, est-ce que ça va réussir? Donc ces éléphants qui sont arrivés, il faut qu'on fasse tout pour les canaliser et les contrôler. J'espère que les agents des eaux et forêts auront beaucoup de travail à faire.
Merci. D'autant plus que canaliser, contrôler un éléphant, ça ne doit pas être une partie de plaisir. Et puis, c'est pas des troupeaux qui sont venus s'installer à Corbongou, hein. Ils sont dans des migrations permanentes. Ils vont, ils viennent. Comme la dépêche le rappelle, il y a d'autres parcs, hein, au nord du Bénin, à l'est du Burkina, au sud du Niger. Donc, les troupes, les éléphants vont aller et venir, hein, vont aller et venir. Bon, ils vont susciter sûrement l'appétit des braconniers, mais cette bonne nouvelle pour notre faune et notre écotourisme peut également constituer une menace, hein, pour les populations de cette région déjà exposées aux vicissitudes de la nature et aux affres du terrorisme.
Non, vous savez, je crois que si Dieu nous a créé ça, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a créé, je vais parler des êtres humains, et des êtres vivants en général, que ce soit les animaux, les arbres et autres, il y a une interdépendance. C'est-à-dire que les éléphants, les animaux vivent et nous dépendons également de la vie de ces animaux, les arbres également, vice-versa. Donc moi, je pense que la bonne nouvelle, elle est là. Le fait que ces animaux soient de retour, que vous vous rappelez dans les années 90, avec l'avènement du vent de l'Est, comment les gens, comment ces faunes et flores sont entretenues. Il n'y en avait plus. Et les gens ont dévasté, même jusqu'à certaines années récentes, et ces faunes et flores, même ces animaux n'existaient plus. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. La question qui se pose, c'est comment s'organiser. Et c'est là, nous tournons nos yeux vers le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est au ministère et les autorités compétentes de prendre les dispositions pour faire en sorte qu'une organisation précise soit mise en place et en collaboration avec les populations des zones concernées. Comment faire pour que contenir ces animaux, faire en sorte qu'on puisse en bénéficier. Comme je l'ai dit tantôt, il y a une interdépendance entre nous et ces animaux. Donc, c'est très important. Il faut que le ministère de l'Environnement prenne sur lui la charge de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je sais que c'est un ministère qui travaille déjà beaucoup et nous estimons que le temps est arrivé pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que on en avait besoin. Depuis un certain temps, on ne parle plus de la faune. Vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que on ne parle plus de la faune, ça n'existe plus, les animaux n'existent plus. Donc, comment faire pour que ces animaux soient là aujourd'hui? Il y a une opportunité, je pense qu'il faut la saisir. Et la balle est dans le camp maintenant de nos autorités, particulièrement le ministère en charge de l'environnement qui se charge de ces gens.
Mais également le ministère de l'agriculture, pour ne pas dire le ministère de la sécurité.
Et de la sécurité,
parce que
tout est lié.
D'autant plus que la région est exposée aux affres de l'extrémisme et du terrorisme, un fléau que le gouvernement, le Togo combat sur divers fronts. Il y a le front militaire, il y a également la politique qui consiste à apporter des solutions résilientes à certaines préoccupations des populations. Et il y a également la sensibilisation, l'information. Et le gouvernement qui a vu très tôt, déjà plusieurs années, que le CIPLEV avait été installé, c'est le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Et hier, nous avons tous appris cette nouvelle que nous rappelle la manchette, à savoir le HCRUN, qui a formé des comités de paix de la région des savanes contre le fléau de l'extrémisme, pour dire que à Bachaka, cette hydre du terrorisme, la lutte doit se mener sur plusieurs fronts, dont le CIPLEV, qui sensibilise afin que la population soit prémunie contre les illusions que peuvent vendre, ces terroristes et autres.
Ouais, il faut saluer l'initiative de ces différentes organisations et sociétés civiles qui se lancent dans la sensibilisation de ces populations, surtout dans la région septentrionale, dans les savanes. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est par rapport à l'ignorance de ces jeunesses que les terroristes arrivent à les embrigader. Ils vont leur faire des changements de mentalité, tout ça là, on va leur dire vous êtes ici, vous êtes cela, et que des fois même c'est des parents qui acceptent de pousser leurs enfants vers ces ces personnes, ces terroristes-là, parce qu'ils sont en manque d'argent. Aujourd'hui, il faut saluer ce qui se passe dans la région centrale, dans la région des Sabanes, où il y a des programmes d'urgence qui ont été lancés, où il faut faire tout pour occuper cette jeunesse. Et nous avons vu que, dans plusieurs avec plusieurs occasions, il y a même avec le football, on arrive à sensibiliser les jeunes sur l'extrémisme violent. Il y a des spectacles sportifs et autres qui sont en train d'être organisés sur l'extrémisme violent parce que quand ça touche beaucoup à la jeunesse, les choses vont aller plus loin et que les jeunes ne vont pas tomber dans le piège de ces messieurs-là qui sont en train de semer l'horreur et la terreur dans tous les pays. Mm-hmm. Parce que ces jeunes, quand ils vont tomber dedans, ils deviennent maintenant des armes contre leur propre population.
Oui.
On les utilise comme des armes contre leur propre population. Ils viennent tuer leur propre population. Donc si la sensibilisation est bien accentuée par rapport à ce que fait même le H-Kroon également qui est rentré dans la danse, je pense que les choses vont aller mieux. Et on ne va plus rencontrer ces gens, on ne va pas tomber dans le piège de ces terroristes-là qui sont en train de prendre le nord de Dapon, on peut le dire, puisque chaque fois on entend dire que c'est.
Donc ils veulent. Ils font des tentatives d'incursion, mais à chaque fois les forces de défense les repoussent.
Oui. Donc, or, ces jeunes, lorsqu'ils viennent, ces terroristes, lorsqu'ils viennent, les premières personnes à qui ils s'adressent, ce sont les jeunes.
Mm-hmm.
On vous demande, ça dit, j'ai pas, des fois même on les enlève.
Oui.
Ils sont enlevés, on les amène quelque part, on leur fait des lavages de cerveau, et après ce lavage de cerveau,
on les monte contre leur propre population. Mais ce phénomène, nous le savons, hein, c'est une hydre, hein, et qui prospère malheureusement hein, par la porosité des frontières avec les pays voisins, qui connaissent des situations d'instabilité. À côté, il y a également une trop faible présence de l'État, une pauvreté ambiante hein, qui contraint les populations à la précarité. Il se développe également des réseaux de contrebande, des fois aussi des tensions entre les communautés. Voilà le mélange détonnant hein, de ce phénomène. Mais il faut lutter contre cela. Nous avons parlé de la lutte armée. Nous avons parlé de la sensibilisation, mais également ce programme spécial que le gouvernement a mis sur pied depuis plus d'un an. Il s'agit du PURS, sur lequel le messager nous apprend que le gouvernement et ses partenaires ont fait le point sur ce programme d'urgence un an après et les nouveaux défis à relever.
Oui, je crois que c'est la semaine dernière que le gouvernement a eu à s'entretenir avec ses partenaires, je crois que c'est à la primature, pour pouvoir faire le point après un an d'exercice de mise en œuvre de ce programme, pour voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Est-ce que ça a été positif? Il y a eu un impact sur la population et l'élargir éventuellement, puisque ça pourrait peut-être être élargi. Nous le disons tantôt ici dans nos débats que cela ne se limite pas seulement à la région septentrionale, parce que le phénomène, il est là. La pauvreté, elle est là. Le chômage, il est là. Abbas Issaka le disait tantôt. Je crois que le premier point sur lequel ces terroristes et ceux-là qui peuvent changer, qui peuvent donner l'illusion à la jeunesse, c'est le chômage. Le fait que cette jeunesse ne trouve rien à faire, elle est facilement imbibée, elle est facilement séductible. Ça dit qu'on peut la séduire facilement à travers un certain nombre de promesses. Donc je pense que si le gouvernement prend sur lui l'initiative de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour occuper cette jeunesse, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette jeunesse puisse trouver ce qu'elle doit faire, je pense qu'on peut réduire, je dis pas qu'on peut éradiquer totalement, on peut réduire ce phénomène, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement nés dans cet état d'esprit. Mais je pense que le gouvernement, déjà, par rapport à ce programme d'urgence, c'est une bonne chose, puisque l'impact a été positif, mais il faudrait continuer et l'élargir sur toute l'étendue du territoire. Parce que l'extrémisme violent, ça ne se limite pas seulement qu'au niveau des zones frontalières. Attention, il peut avoir des gens dans
la capitale également, sur toute l'étendue du territoire.
Les réseaux dormants.
C'est vrai, qui s'adonne à ces pratiques. Donc, il faudrait quand même élargir ce programme, d'où cette rencontre. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait quand même que les partenaires puissent appuyer le gouvernement dans cette démarche pour que d'autres activités puissent être développées dans nos différentes villes pour pouvoir...
Ce projet d'urgence qui a consisté à construire à tracer quelques routes, construire des écoles, des infrastructures socio-économiques. Et ça a coûté déjà autour de 50 milliards de francs CFA. Le gouvernement qui recherche encore des fonds pour consolider, voire l'étendre aux régions voisines. Le gouvernement également qui a conclu avec le système des Nations Unies hier un nouveau cadre de coopération avec les Nations Unies, les journaux le rappellent comme Le Libéral, Togo Matin et autres. Ce nouveau cadre qui s'élève à autour de 150 milliards de nos francs CFA, c'est dire que il y a toujours cette politique de coopération par laquelle nous recherchons des financements pour les projets. Et le nouveau cadre de coopération conclu avec les Nations Unies hier s'articule autour de trois points essentiel dans la feuille de route gouvernementale jusqu'à 2025 à Bajisaka. Tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, surtout dans cette ambiance où nous parlons beaucoup de corruption depuis quelque temps, avec le nouveau président de la A+IA, avec ce fameux rapport d'audit de la Cour des comptes sur la COVID-19 qui continue à susciter beaucoup de débats. C'est rappeler au gouvernement que tous ces financements devraient être utilisés à bon escient pour que les fonds servent à résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées.
Oui, effectivement, on ne peut pas continuer à signer des conventions, des contrats, et puis des partenariats. Les partenaires aident le pays et ces fonds-là entrent dans les poches des gens. C'est ce que nous avons constaté avec le rapport de la Cour des comptes où... Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui signent des conventions. Lorsque vous signez une convention, j'espère qu'on a eu à faire le compte rendu, le point de la situation, parce que c'est chaque 3 ans que le CNU et le système des Nations Unies et le Togo signent le contrat. Les 3 ans sont terminés. Et aujourd'hui, on a renouvelé. C'est un renouvellement qui a été fait avec le Togo par rapport à ça. Donc, si on sait que le système des Nations Unies ou bien les partenaires sont regardants sur les fonds qu'ils utilisent, qu'ils nous envoient dans le cadre de limiter ou bien de réduire, de faire de sorte que la population puisse être à l'aise et que ces fonds-là sont détournés ailleurs, ça ne va pas encore continuer encourager les gens à vous donner leur argent, parce qu'il faudrait faire le point de la situation. Si vous faites le point et que ce n'est pas bon, on rejette ce que vous avez fait comme projet pour chose. Donc aujourd'hui, les fonds qui sont en train de donner, on parle de plus de
154
milliards de francs CFA. Ces 154 milliards de francs CFA doivent aller directement aux besoins pour lesquels cette convention a été signée. On ne va pas entendre la prochaine fois pour dire que... sur le plan socio-développement à la base, ou bien sur les actes sociaux que le gouvernement va poser, et qu'on mette des gens sur ces projets, aller gérer ces projets, et à la fin, on vient nous dire que cet argent-là n'a pas été utilisé à bon escient. On a vu là, avec le forum des paysans, où lorsque le chef de l'État discutait directement avec les populations, les paysans, les gens ont relevé beaucoup de choses. Il y a des projets qu'on a dit, il faut appliquer ces projets. Ces projets n'ont jamais été mis en œuvre. Et les populations, les paysans, les agriculteurs ont soulevé ça devant le chef de l'État.
En personne.
En personne, devant lui. Et il a demandé, il a dû poser la question à ceux-là qui sont chargés d'appliquer ces projets-là. Donc, même à Kpalimé, c'est la même chose. À Takpalimé, plutôt, c'est la même chose. Les projets qui devaient être mis en œuvre ne l'ont pas été. Et c'est pour cela que j'apprécie la descente du chef de l'État sur le terrain, en direct. Il discute directement avec les populations concernées parce que c'est des projets qui doivent alléger la souffrance des populations. Et si ces projets ne sont pas mis en œuvre, c'est que c'est la politique du chef de l'État qui est en train d'être mise en cause. Il a donné la confiance à certaines personnes, faites ceci, et ces personnes-là n'arrivent pas à exécuter ce projet. Donc il faudrait que l'argent que les partenaires, les contrats, les conventions qu'on signe avec le Togo, que cet argent-là puisse être utilisé.
Je rappelle juste les trois axes sur lesquels le nouveau cadre vient d'être conclu entre le Togo et le système des Nations Unies. Numéro 1, il s'agit de soutenir une croissance plus inclusive et durable. Au point 2, accompagner le développement du capital humain et l'accès aux services sociaux de base pour tous. Et le point numéro 3, il s'agit de promouvoir une gouvernance plus inclusive, efficace et redevable pour préserver la sécurité et la paix. Des points qui sonnent très beaux et on peut espérer que le gouvernement qui a bâti ce nouveau cadre de coopération sur ces points-là verra à ce que ces points soient effectivement respectés. On va terminer avec les forats des producteurs agricoles. Et le messager nous rappelle que trois régions ont été déjà bouclées et avec à chaque fois la présence effective du chef de l'État à Mango, à Tchévié et à Takpamé et à Déta. On attend la suite. Le libéral, lui, fait un zoom sur le périple de Fort Gnassingbé dans les plateaux pendant que le Magnan libéré lui revient sur les échanges que le chef de l'État a eus non seulement avec les producteurs agricoles, mais également avec les chefs traditionnels, sur les défis et les perspectives du secteur agricole. Dounia Le Monde lui parle des promesses de Fort Gnassingbé aux producteurs agricoles, et Togo Matin lui parle des transformations agro-industrielles en faveur de la sécurité alimentaire. Vraiment ?
Non, je pense que l'initiative, elle est bonne. En elle-même, elle est bonne, puisque le fait que les dirigeants acceptent d'échanger directement avec les producteurs sur le terrain, je pense que cela permet quand même d'avoir, de maîtriser les problèmes que ces producteurs ont et également d'exposer les efforts qui ont été faits par le gouvernement. Moi, je dis, tout ceci est bien beau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait quand même, c'est vrai, on a vu la mobilisation un peu partout, dans les trois régions où le chef de l'État a circulé, où l'organisation a été faite. Maintenant, est-ce que ne serait-il pas bien que d'ici un an, parce que le chef de l'État a eu affaire des dons de matériel, de produits agricoles, après un an, lorsqu'on va vouloir également organiser d'autres forums, qu'on puisse faire l'état des lieux pour voir qu'est-ce qui a été fait lorsque ces forums ont été organisés. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que cela a eu un impact sur la population? C'est ça qui va encourager non seulement les gouvernants, mais également les partenaires à pouvoir continuer par investir. Mais je l'ai dit, l'idée, l'initiative en elle-même, c'est une bonne chose parce que ça a permis quand même de comprendre et à fond les problèmes que vivent nos producteurs et également savoir qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir venir ou bien subvenir aux besoins de ces producteurs et voir projeter ce qu'il faut faire pour diminuer tant soit peu les problèmes que rencontrent nos producteurs.
C'est important ce que tu dis là, d'autant plus que les partenaires, ils sont aussi chaque fois présents. Ils étaient à Dapaon, ils étaient à Tchévié, ils étaient à Takpamé. On peut présumer que ils seront également aux côtés du chef de l'État pour boucler la boucle dans la région centrale et de la savane. Et je pense que plutôt de la Kara. Et après le dernier tour, Bourema et Abbas, on présume que le chef de l'État va demander au gouvernement de faire le point.
C'est important.
Le point de tous ces forats-là. Et là, peut-être qu'on pourra avoir une nouvelle feuille de route. C'est le terme à la mode. Une feuille de route sur laquelle on pourra se prononcer quand il s'agira d'organiser d'autres forats.
Oui, effectivement, je pense que c'est ça qui justifie la présence du chef de l'État aux apothéoses. Il laisse les gens discuter entre eux et après lui-même il arrive pour écouter les doléances des uns et des autres. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et suite à ça, on va avoir un rapport qui sera présenté au chef de l'État à partir duquel peut-être que la feuille de route qui a été tracée pour les 2020-2025 sera un peu modifié par rapport à ce que le chef de l'État a écouté, les doléances qu'il a écoutées auprès des populations directement. Parce que on se rend compte que finalement, il y a des gens qui viennent le faire un compte-rendu qui n'est pas ce qui est sur le terrain. Et quand lui-même il est arrivé, il a vu, il a fait le constat de ce qu'il y a sur le terrain. Il y aura peut-être
Et bien on verra les dispositions qu'il va prendre après avoir écouté les gens. Hein, qui lui ont présenté une situation qui ne concordait pas avec les rapports écrits. Qu'est-ce qu'il va faire comme synthèse à l'issue de tous ces forats-là? Nous attendons le dernier rendez-vous. Je ne sais pas si ce sera à Sokoro ou bien à Kara. Et nous ferons ici le point. D'ici là, il est midi, passé de une minute. Nous allons souffler un peu le temps que Michel adresse un clin d'œil de Canal FM à nos partenaires. Et puis, nous ouvrons les antennes sur les auditeurs. Ils pourront s'adresser à M. Tété Kossi pour ce qui est de l'enquête post-censitaire. Peut-être des questions, commentaires sur la dernière parution de Santé Éducation ou encore des commentaires sur l'actualité de proximité telle que Bourahima Chaboré et Abba Chisaka en ont parlé. 93.5. Nous avons parlé de l'enquête post-censitaire qui a commencé depuis le 5 février et qui court jusqu'au 22 février prochain. Nous avons parlé de la dernière parution de Santé Éducation et puis on a parlé du retour des éléphants au Togo avec les joies et les inquiétudes. Et on est revenu sur le dernier développement de la coopération entre le Togo et les Nations Unies. On a fait le point des forats des producteurs agricoles. La parole est présente à vous. Bonjour, l'ami.
Oui, bonjour, Sof. Comment ça va?
Ah, Didier.
Oui, ça va. Monsieur Abbas, bonjour, ça va?
Bonjour, ça va bien.
Oui, je voulais poser une question au monsieur du recensement, là.
Oui, oui.
Mais moi, j'ai eu un problème lors du premier recensement parce que les gens sont venus chez moi. Je n'étais pas à la maison. Ils ont promis de revenir. J'ai pris le temps de les appeler. J'ai appelé Tenetti. Là où ils font le truc, ils ont promis qu'ils vont repasser. Ils ne sont pas repassés. Oh, ils ont écrit sur ma maison que j'ai été recensé. Depuis, je n'ai vu personne. Bon, pour revenir à M. Abbas, quand il parlait, ça me faisait tellement sourire, je riais seulement là. Donc, M. Abbas veut nous faire comprendre que c'est maintenant que le président Faure fait un suivi de ses projets. Depuis là, il n'y a pas quelqu'un qui suit ses projets pour le rendre compte fidèlement. Donc, il y a un problème. Les rapports qu'il y en a eu pour les autres, on a eu beaucoup de projets. Exemple typique, Lomé Anéa Vogan et Lomé Vogan Tamlegola. Il a eu ce rapport, qu'est-ce qu'il en a fait? On n'a rien eu, ça c'est que de l'enfumage, ils l'entendent de nous faire, ils sont rentrés en campagne. Et puis pour revenir sur l'agriculture là, une chose est de former les agriculteurs, mais une chose est de les trouver des débouchés. Vous voyez notre ami Pierrot Kakoui là, son petit pisciculture qu'il fait sur le Anangweto, oui. Il n'arrive même pas à écouler.
Nous en avons parlé hier, oui.
Il a des concurrents, il y a des trucs qui viennent de la Chine, non, de la Chine qui le concurrence. Les entrants ne sont pas subventionnés, les entrants sont chers. Dans les pays en Europe qu'ils copient, tous ces agriculteurs sont subventionnés. C'est l'État qui les oblige à aller dans l'agriculture. Une fois qu'ils produisent, il faut que l'État ait l'obligation de prendre ces produits pour les écouler. Maintenant, regardez, vous encouragez les gens à rentrer dans l'agriculture, à faire la pisciculture, mais ils produisent, n'arrivent pas à vendre. Ils sont concurrencés par les produits importés. Comment est-ce que vous voulez que ça, le pays se développe? Non. Il faut que l'État prenne sur lui de prendre, de récupérer tout ce que les gens vont produire, parce que c'est lui qui les a incités à rentrer dans ce domaine. Je vous remercie, M. Sartre.
Merci beaucoup, Didier. Didier qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Bonjour, Sartre.
Oui.
Je remercie tous ceux qui sont sur le plateau.
Oui.
J'ai un souci majeur. C'est le dégâtissement des conteneurs à bord des voies.
Oui.
Ma préoccupation, je voudrais que le chef de l'État puisse prendre en charge ce dossier. Parce que si on démolit les conteneurs, ou bien on les cherche, parce que c'est des jeunes qui se développent eux-mêmes. Par leur propre capacité, ils se sont investis et ils ont investi dans les établissements financiers pour avoir les fonds et mettre ces conteneurs. Il n'y a pas eu de sponsor ni accompagnement.
Oui.
Lorsqu'ils vont vouloir démolir, vous savez qu'actuellement, au nord du pays, nous sommes en train de suivre les djihadistes et autres là, ils sont en train de détruire la population. La pauvreté va encore s'accentuer, la misère. Okay. Donc, je voudrais que le chef de l'État prenne en charge ce dossier-là pour qu'on ne puisse pas le faire. Même s'ils vont le faire, je vois dans quelle mesure, par exemple, derrière les écoles, je suis d'accord. Mais à bord des rues là, moi, franchement, je n'ai pas d'avis.
C'est Patrice Izinakadiao, non?
Oui, c'est lui.
Ok. En fait, nous avons rappelé les solutions alternatives qui sont proposées à ceux qu'on demande de quitter la voie publique. Mais le débat reste toujours ouvert. Merci Patrick Sizine, ça fait un petit moment. Le suivant, bonjour.
Allô.
Oui.
C'est
ici.
Voilà. On nous fait des enquêtes. Encore des enquêtes pour notre développement, c'est ça?
C'est pour savoir combien nous sommes au Togo.
Combien nous sommes au Togo? Pour nous faire quoi? Pour nous faire rentrer dans nos droits d'allocation conséquentes, la sécurité sociale, les écoles dignes et tout le reste? C'est pour nous donner tout ça là, tous ces avantages ou quoi? Hein? Et on en a fait la dernière fois, non?
Non,
ils nous ont pas donné les chiffres.
Non, ce qui a été fait, c'était le dénombrement. Maintenant, c'est la suite. C'est pour peaufiner la première phase.
Bon, on est combien? En gros, on peut pas dépasser 5 millions, hein. On peut pas dépasser 5
justement,
millions.
Justement, si,
c'est
après le recensement que nous saurons combien nous sommes.
Bof. Mais bon. Maintenant, on veut détruire les conteneurs, là. Au bord des routes.
Non.
Parce que les gens, bon, comme ils ont l'habitude de détruire nos vies aussi. Bon, il n'y a pas de travail. Les gens se sont créés ces trucs-là, mais bon, en désordre aussi un peu. Parce qu'ils veulent supprimer. Il paraît que les gouvernants en créent aussi pour nous les louer ensuite. Hein, les gouvernants en créent. Okay. On en a vu autour de l'université. On en voit au marché Izanawe peint en bleu blanc et tout le reste à déticoper. Non, il faut qu'on arrête ça. Qu'on nous laisse vivre dans ce pays, quoi. Et puis voilà. Et vous avez parlé des Nations Unies. Moi, je veux savoir si l'Union Européenne existe encore au Togo. Parce que cette organisation nous promet des réformes tous les 5 ans, et depuis 40 ans, ou je sais pas quoi, tous les 5 ans, d'aller aux élections présidentielles, et qu'après ça, on nous fera les réformes démocratiques.
C'est le dernier développement.
Puis, du coup, on les entend plus.
Oui, et si?
Bon,
nous parlons du dernier accord qui a été signé. Quand le gouvernement va signer un accord avec l'Union européenne, nous vous en parlerons.
Oui, mais on n'entend plus l'Union européenne. Est-ce qu'elle existe encore au Togo?
Ok, nous allons demander.
Ça me tire l'upine, là.
Merci.
Je ne sais pas s'ils sont encore là.
Ok. Vous avez fini? Ah, c'est bizarre que s'ils terminent sans parler d'alternance. Merci, bien. En attendant le prochain auditeur. Oui, l'ami Tété. Vous avez écouté le premier auditeur Didier,
oui,
qui se plaignait qu'il n'avait pas été recensé la première phase, mais il avait été écrit sur sa porte recensé.
Oui, merci ça. C'est en fait une intervention qui ne me surprend pas.
Mm-hmm.
C'est justement dans ce sens que le PC est conçu et mis en œuvre.
Mm-hmm.
Donc déjà, dans tout le processus, fait partie de la phase ultime, au terme de laquelle on peut estimer que les résultats sont désormais affinés et pourront être publiés.
Okay.
Donc, il n'est pas seul dans le cas. Donc, nous essayons donc de récupérer ces cas. Et en fonction des omissions, il y a des dispositions qui sont prises.
Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Séverin.
Séverin de...
Oui,
allez-y, Séverin.
Moi, je voulais intervenir sur le dégagement.
Oui.
Bon, concernant le dégagement et les emplacements dans les marchés, est-ce que, bon, je ne sais pas, c'est la mairie qui doit favoriser les gens qu'on renvoie au bord de la voie ou bien c'est les, je ne sais pas, ceux qui sont en charge des marchés là.
L'ami, c'est vrai. Vous êtes arrivé là, oui. Eh bien, oui. Approchez la commune la plus proche de vous, posez la question, on vous répondra.
Ok. Ok, merci.
Je vous en prie. Oui, le suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui.
C'est monsieur Kosside.
Kosside de Saguado.
Oui.
Oui, allez-y.
Bon, je salue le plateau.
Oui.
Je veux parler du sujet du décapitement.
Mm-hmm.
Je répète, j'encourage vivement le gouvernement à mettre cette loi en application rigoureusement. Ceux qui occupent les rues n'ont qu'à dégager, n'ont qu'à libérer les rues, n'ont qu'à dégager leurs fonctionnaires. C'est comme ça que le pays se développe. C'est pas quand on dit qu'il y a les djihadistes qui veulent venir occuper les rues, mettre les conteneurs dans les rues pour dire qu'il y a les djihadistes dans le pays. Ils n'ont pas dégagé les rues. Merci, bonne émission.
Je vous en prie. Mais tout en les dégageant, il faut quand même leur trouver une place où ils vont continuer leur activité. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Oui. C'est Bertrand.
Pardon?
Bertrand.
Bertrand.
Oui.
Oui, allez-y.
C'est par rapport au déguerpissement.
Oui. Oui.
Madame ici est revenue tout à l'heure là-dessus. Si c'est pour déguerpir et revenir mettre un conteneur peint en bleu, blanc, je me demande si ça vaut encore la peine. Parce qu'on en a vu tout autour du
non, la, chaque chose en son temps. On va déguerpir et puis on verra ce qui sera fait des endroits.
C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il faut le faire et pour... Ça vaut la peine.
Bah.
Parce que si on dit que c'est pour rendre les trucs propres, mais s'il faut déguerpir et revenir les remettre et les peindre en noir et en bleu, blanc...
L'ami Bertrand, est-ce que vous connaissez un endroit où on a chassé les commerçants et qu'on a placé des kiosques en bleu, blanc?
En tout cas,
ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Hein. On va dégager les voies. Maintenant, si les communes ou les préfectures ou le gouvernement fait une utilisation qui n'est pas logique de ces endroits, enfin, vous pouvez compter sur le club de la presse pour porter le débat là-dessus. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour. Ça.
Oui, oui.
Je suis très indigné de celui qui vient pour dire qu'on n'a qu'à déguerpir. Quelle mesure d'accompagnement il a donné pour dire cela? Est-ce qu'il a une fois donné quelque chose à quelqu'un dans sa vie? Et au moins, s'il a apporté une mesure d'accompagnement, on peut l'accepter. Ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. S'il est un chrétien, un patriote, il ne peut pas dire ça.
Patrick, nous sommes dans un débat. Vous avez parlé, les gens vous ont écouté. Ayez le courage d'écouter aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je vais vous rappeler à la fin la pensée du jour avec laquelle nous avons démarré l'émission. Ok. Je reviens à vous, monsieur Dété. Hein, donc, vous disiez sur l'opération de... l'enquête pour censiter, c'est pour corriger les erreurs, les manquements qu'il y avait eu à la phase de dénombrement, n'est-ce pas?
Exactement.
Et affiner maintenant pour que nous ayons des données inattaquables.
Oui.
Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Moi, c'est M. Kofi.
M. Kofi, nous vous écoutons.
Oui, pour le déguerpissement des voies.
Oui.
Bon, il faut, par exemple, ceci, il y a ça à Cotonou. On a déguerpi les gens, mais ils ont trouvé une solution. Par exemple, pour les locations des boutiques, au moins, il faut qu'on facilite ça aux gens. Par exemple, pour louer une boutique à louer maintenant, il faut payer un an. Par exemple, si le loyer est à 90 000, un an, il faut voir. Au moins, si on régule ça, et on dit qu'il faut payer 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Ça peut permettre aux gens de pouvoir louer les boutiques et installer leurs produits.
Mm-hmm.
Et ça faciliterait les choses pour la population.
Oui.
Là, vous voyez ça.
C'est une suggestion
qu'il faut proposer.
Merci beaucoup. Et puis, ce que je peux dire, ceux qui seraient dans ce cas-là, il faudrait peut-être mieux approcher la mairie à côté, poser le problème, et ensemble avec votre maire, vous pouvez rechercher des solutions qui arrangent tout le monde. Le tout dernier auditeur.
Allô, M. Sang.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. C'est M. Sang de savoir le plus régulier.
Bon,
allô.
C'est pas du berger à la bergère, hein.
Pardon.
Quoi, de Saguado.
Oui, il est revenu, c'est moi qui reviens.
Ok, bien, bon retour.
Oui, aujourd'hui, le débat est très bon.
Uh-huh.
Ah, c'est le club de la France, c'est très bon.
Merci.
La diversion des idées.
Merci beaucoup.
Je reviens pour dire, à confirmer ce que j'ai dit, que quand on dit qu'un État est développé, ça aussi fait partie. quand nous apprécions le pays des Blancs, nous apprécions la Côte d'Ivoire, le Ghana, que le Ghana est en comme ça, ça fait partie. On n'occupe pas les rues. On ne vient pas déposer les conteneurs dans les rues. Il n'appartient pas au gouvernement de chercher les gens là où les gens doivent aller déposer les conteneurs. Ils vont aller dans les marchés.
Merci, merci, merci l'ami Kostis Agbado. Le mal dans tout ça, où est-ce que l'État était quand le premier est allé occuper la voie publique? Reconnaissons également nos problèmes. Les maires, même le ministre d'Apaya de Wabukwesi, où est-ce qu'il était lorsque le premier commerçant est allé occuper la voie? Comprenons que on a fauté quelque part. Maintenant, il faut corriger et je rappelle ce que le ministre Boukwissi a dit et que les maires répètent, qu'on va trouver des solutions alternatives à ceux qui occupent la voie. Mais le mieux, c'est que les concernés s'approchent de leur commune hein, pour poser le problème et sûrement ils vont trouver une solution. Merci à tous les auditeurs, hein, Didier, Patrick par deux fois, Kostis Agbado par deux fois, Kofi, Bertrand, Séverin, et si j'en oublie, merci d'enrichir le débat au jour le jour. Monsieur Tété Kossi, deux, trois questions vous ont été adressées. Vous n'avez pas le temps de répondre, juste un message, enfin votre conclusion. Pour nous rappeler l'importance de cette enquête post-censitaire et l'accueil que nous devons réserver à vos agents.
D'accord. Merci, M. Sass. Pour ce qui est de l'importance de cette enquête, donc c'est une enquête qui fait partie intégrante du processus du RGPS, une enquête tout aussi indépendante que le dénombrement lui-même. Par conséquent, il faut lui accorder toute l'attention, toutes les mesures, toutes les dispositions qu'il faut pour sa réussite. Mm-hmm. Donc, c'est le seul outil dont nous disposons pour s'assurer de l'exhaustivité du dénombrement. Qui nous souvient encore que l'État et ses partenaires ont mis beaucoup trop de moyens dans cette affaire, dans cette étude, dans cette activité, pour que les données ne répondent pas à leurs attentes. Mm-hmm. Voilà justement la raison d'ailleurs pour laquelle les résultats ne sont pas encore publiés. Mm-hmm. Donc, aussitôt après la fin de la collecte et le traitement de ces données-là, mm-hmm. nous transmettrons les résultats acquis de droit pour publication.
Merci. Une dernière question. Comme Didier se plaignait qu'il n'a pas été recensé, mais il a été écrit sur son domicile, recensé. Est-ce que l'enquête post-censitaire s'offre pour recenser ceux qui avaient été oubliés dans la première phase?
L'enquête post-censitaire, comme je le disais tantôt, c'est une opération qui se réalise sur une partie de la population. Mm-hmm. Mais comme toute enquête est statistique, nous avons nos méthodes, nos artifices statistiques pour pouvoir extrapoler ce que nous obtenons sur un échantillon, l'ensemble de la population. Mm-hmm. Donc, notre intervenant ne s'en préoccupe pas trop. Il sera pris en compte dans les résultats finaux.
Bon, in fine, est-ce que vous nous promettez des données fiables, vraies et inattaquables, M. Tété?
Monsieur Sass, c'est ce à quoi nous travaillons depuis toujours et nous promettons que les données que nous sortirons seront de très meilleure qualité pour permettre donc le développement, la mise en place, le suivi et de nos politiques, programmes et projets au Togo.
Merci à vous, Tété Kossi, directeur technique de l'enquête post-censitaire. Vous transmettez nos sentiments à votre directeur. Bouraïma et Abbas, il n'y a pas de temps, mais beaucoup d'auditeurs sont revenus sur les opérations de déguerpissement Juste c'est... quelques secondes.
Oui, vraiment... c'est ce, oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne faudrait pas que les gens tentent de rentrer dans un bras de fer par rapport à cette situation. Il y a eu la sensibilité. C'est vrai, je le disais tantôt. On compatit quand même à leur situation. Et surtout que aujourd'hui, l'État a dit, il y a un palliatif. Nous prenons l'engagement de vous trouver d'autres possibilités pour que vous puissiez. Je pense que c'est la meilleure solution pour éviter tout tiraillement dans ces genres de situations.
Merci. Tu termines avec un carton de fin d'émission.
Non, mon carton vert va à la population du Septentrion et particulièrement à toutes les zones qui ont été touchées ces derniers temps par les incursions de ces gens sans foi ni loi. Je voudrais dire un carton de compassion. Un carton vert pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux.
Merci.
Qu'ils ne pensent pas qu'on les a délaissés.
Abbas Issaka.
Même si nous ne sommes pas en présentiel là-bas.
Merci. Abbas.
Non, c'est pour dire, c'est Robert, bien sûr, le premier intervenant qui me demandait que lorsqu'il m'écoutait, il était en train de rire parce que est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État a vu qu'il faut faire le rapport.
Oui.
Non, c'est pour dire que un jour pour tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Donc le chef de l'État a décidé d'aller voir beaucoup sur le terrain et de constater de visu ce qui se passe. Même si c'est, il reste 100 ans, 50 ans, 100, aujourd'hui il s'est rendu compte que ceux-là qui il a fait confiance pour travailler pour lui ne l'ont pas fait complètement. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités. On a dit que c'est à la fin, peut-être qu'il va nous faire un point de la situation.
Peut-être une surprise. Mais c'est vrai que chaque fois que nous parlons du FOPAT, les auditeurs s'étonnent que c'est 18 ans après qu'il est au pouvoir, hein, qu'il trouve le temps maintenant de se rendre compte que ce qu'il avait mis dans l'agriculture n'a pas prospéré.
C'est ça.
Ça revient souvent.
Ça revient souvent, très souvent, c'est les constats. Donc,
et je présume que lui-même il écoute, on lui rend compte.
Et il a décidé, parce que c'est en décembre dernier qu'il a dit dans son discours que lui va aller directement discuter avec les agriculteurs. Et c'est ce qu'il est en train de mettre.
Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que
jamais. Un carton pour ponctuer tout ça?
Non, carton rouge pour ceux-là à qui tous les jours ils conduisent et violent les feux tricolores.
Merci. Abel aussi?
Ça, je n'ai pas de carton, mais juste un rappel. Celui qui a la santé est riche sans le savoir.
Merci. Celui qui a la
santé. Il faudrait quand même que ces feux tricolores travaillent. Parce qu'on ne va jamais cesser de le dire. Jusqu'à présent, il y a certains feux tricolores qui continuent, qui sont dans
ce les maires qui ont commencé à déguerpir
voilà.
Les voies publiques.
Moi, je pense qu'ils devraient commencer par là.
Maintenant, ils vont faire en sorte que toutes les signalisations marchent sur nos routes. Et puis, pour terminer, rappel de la pensée du jour. Nous sommes en démocratie. Nous devrons être disposés à écouter des débats contradictoires. C'est pourquoi Morgan Freeman nous rappelle que la plus grosse erreur que nous puissions faire est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. Et celui qui pense autrement que moi n'est pas mon ennemi.
C'est
plutôt, il m'enrichit. Même s'il est gros et que moi je suis mince, nous nous complétons, n'est-ce
voilà,
pas?
Même s'il est géant et que moi je suis court.
Rendez-vous demain jeudi à 11h.